Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 août 2014. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
En Guinée, le président a décrété l'état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie d'Ebola, alors que l'OMS parle de 1069 morts dans son dernier bilan.
En Libye, le Parlement vote le démantèlement des milices rivales et les sommes de se joindre à l'armée et à la police.
En Irak, le Pentagone estime beaucoup moins probable maintenant une mission d'évacuation des réfugiés sur le mont Sinjar.
Israël et le Hamas acceptent de proroger de 5 jours la trêve de 72 heures à Gaza.
Le convoi russe transportant de l'aide pour l'est de l'Ukraine bloqué en territoire russe.
Et nous reviendrons sur la tension qui prévaut à Ferguson, une banlieue de Saint-Louis dans le Missouri, où un adolescent noir a été récemment tué par un policier blanc. Et ne manquez pas la musique de Roger Montou et les sports. En fin d'émission, pour l'instant, le journal. En Guinée, le président Alpha Condé a décrété à compter du mercredi 13 août, donc depuis hier, l'urgence sanitaire dans son pays contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Dans une déclaration lue à la télévision guinéenne, il a déclaré que cette mesure est conforme à l'urgence sanitaire mondiale décrétée par l'OMS. M. Condé a également annoncé une série de mesures en vigueur à partir du 13 août.
Il s'agit d'une série de 9 mesures, dont des renforcements de contrôle, des restrictions de déplacement et l'interdiction de transférer des corps d'une localité à une autre jusqu'à la fin de l'épidémie. Il est ainsi instauré un cordon sanitaire tenu par les agents de santé et les services de sécurité et de défense à tous les postes frontaliers d'entrée en Guinée, selon la déclaration. En outre, les mouvements de personnes sont restreints et soumis aux mesures de contrôle sanitaire aux différents points de passage terrestres, maritimes et aéroportuaires.
La communauté international a promis d'aider l'Afrique de l'Ouest face au virus Ebola, qui a fait plus de 1000 morts donc dans 4 pays de cette région. Félix Yepasi Zembro.
Le dernier bilan de l'OMS fait état de 1069 morts, dont 56 nouveaux décès en 2 jours. La Sierra Leone a perdu son deuxième responsable médical anti-Ebola en 2 semaines et 24 agents de santé sont en quarantaine à Freetown. Au Libéria, 2 médecins sont testés positifs. Au Nigeria, une infirmière qui avait été en contact avec le Libérien mort de l'Ebola à Lagos s'est rendue à Enugu dans l'est du pays, malgré l'interdiction de quitter la capitale économique. Le ministre nigérian de l'Information, Labaran Maku, a indiqué que 21 personnes sont en observation à Enugu. La Guinée-Bissau a annoncé la fermeture de ses frontières avec la Guinée voisine jusqu'à nouvel ordre. L'Allemagne a appelé ses citoyens à quitter les pays très affectés. Le Japon annonce l'évacuation de 24 de ses ressortissants. Et à Riyad, en Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe se concertent à l'approche du pèlerinage annuel à la Mecque, prévu début octobre et qui rassemble près de 2 millions de musulmans du monde entier.
L'armée ougandaise a annoncé hier avoir libéré, dans le nord-est de la RDC, 45 femmes et enfants qui étaient aux mains des rebelles de la LRA. Des détails avec Bagassi Koura.
Selon l'agence France Presse, ces otages ont été libérés en 2 groupes samedi et dimanche dans la zone forestière de Digba, dans le nord de la RDC. L'armée ougandaise, appuyée par des forces spéciales américaines, traque Joseph Kony, le chef rebelle ougandais aux confins de la RDC, du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. Certes affaiblie, l'armée de résistance du Seigneur continue de semer la terreur. D'après Guillaume Kayo, coordinateur de l'ONG américaine Invisible Children, chaque semaine, la LRA fait irruption dans un village pour voler, violer, tuer et kidnapper dans le sud-est de la Centrafrique. Éparpillés en petits groupes de 5 à 10 hommes, les rebelles de la LRA ont trouvé un refuge idéal dans la préfecture du Haut-Mbomou, un immense territoire couvert de forêts.
En Libye, le nouveau parlement élu a décidé de démanteler les milices rivales qui ont vu le jour lors de la lutte pour renverser l'ancien dictateur Muammar al-Gaddafi. Il leur a donné l'ordre hier de se joindre à l'armée et à la police d'ici à la fin de l'année, tout en demandant aux Nations Unies une intervention internationale en Libye.
Le Parlement demande à l'ONU d'intervenir dans la violence entre milices et d'aider à protéger la population civile et les institutions du pays. Selon le parlementaire Eissa Al-Haribi, les membres des milices ont jusqu'au 31 décembre pour obtempérer. En attendant, a-t-il encore dit, leurs salaires seront payés par le gouvernement libyen. La lutte actuelle pour le pouvoir entre milices est l'une des plus sanglantes depuis la chute de Kadhafi en 2011.
Au Soudan, le bilan des inondations s'alourdit. On dénombre 77 morts et 227 blessés selon le ministère de la Santé du Soudan. Claire Morin-Gibourg.
Les pluies torrentielles au Soudan depuis le mois dernier ont causé des dégâts dans 15 provinces, dont celles de Khartoum, de Kassala, du Darfour Nord et du Nil Blanc. Selon le ministère de la Santé soudanais, 36 000 familles ont été touchées et la plupart des victimes ont souffert de l'effondrement de leurs maisons. L'Agence de coordination humanitaire de l'ONU, l'OCHA, indique que plus de 126 000 personnes ont été touchées depuis juillet. Les autorités s'attendent à une nouvelle montée des eaux du Nil. Le gouvernement de la province de Khartoum a précisé que les travaux d'un système de drainage long de 2200 km et censé prévenir ces inondations devraient encore durer 5 ans. En août 2013, les inondations avaient fait 50 morts. La saison des pluies, qui ne fait que commencer, doit durer jusqu'à la mi-octobre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone trouve maintenant beaucoup moins probable une mission d'évacuation des réfugiés du mont Sinjar, après qu'on a constaté que les réfugiés dans la région étaient moins nombreux qu'on ne le craignait. Le secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, a dit hier à la presse que les frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique, ainsi que le largage de secours aux réfugiés, ont aidé à améliorer la situation. Des Kurdes, Irakiens et autres minorités religieuses y ont cherché refuge, en prélude à un assaut sanglant des djihadistes dans ces vastes régions près de la frontière avec la Syrie. Et puis en Syrie même, les djihadistes de l'État islamique ont mené hier une importante avancée dans la province d'Alep, d'où ils ont chassé les rebelles de plusieurs villages à l'issue de combats qui ont fait 52 morts. Lola Akomachri.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe ultra-radical a pris en moins de 24 heures 8 localités et villages au nord de la ville d'Alep, non loin de la frontière turque. Au moins 40 rebelles et 12 islamistes ont été tués. Les combats qui durent depuis des mois se sont intensifiés dans la nuit de mardi à mercredi. L'État islamique a été lâché en fin juillet par son ancien allié, le Front al-Nosra, qui s'est retiré de la région. Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, était alliée aux rebelles en lutte contre l'État islamique et contre les troupes de Bachar el-Assad. Mais ces dernières semaines, Al-Nosra a retourné ses armes pour combattre les rebelles. L'État islamique, qui contrôle en très grande partie l'Est syrien et une partie du Nord, avance vers l'Ouest et cherche à étendre son califat proclamé début juin sur les territoires saisis en Irak et en Syrie.
Israël et le Hamas ont accepté de proroger de 5 jours la trêve de 72 heures pour permettre aux deux parties de continuer leur pourparlers indirect au Caire en vue d'un accord plus substantiel sur la fin de la guerre à Gaza. Peu après l'annonce de la prorogation de la trêve, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé tôt ce matin des raids aériens sur des sites terroristes à Gaza, après que 3 roquettes au moins eurent été lancées sur Israël peu avant l'expiration de la trêve, hier soir. On n'a pas signalé de victimes. Anne.
Et puis le Premier ministre d'Israël est en colère contre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après l'annonce de la création d'une commission d'enquête sur Gaza. Benjamin Netanyahou estime que l'ONU donne une légitimation aux organisations terroristes meurtrières comme le Hamas. Des détails avec Sarah Diaby.
Monsieur Netanyahou, d'après l'AFP, a ironisé sur la commission en l'appelant à enquêter d'abord à Damas, Bagdad et Tripoli plutôt que dans la bande de Gaza. Depuis l'annonce de sa création, les critiques à l'encontre de cette commission se multiplient dans l'État hébreu. Les conclusions anti-israéliennes du rapport de cette commission sont écrites d'avance. Il ne manque plus que les signatures, avait déjà accusé mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Yigal Palmor. Le mouvement islamiste Hamas, dont les violations seront également répertoriées selon l'ONU, a en revanche salué la formation de cette commission, l'appelant à entamer au plus vite ses travaux. Cette commission doit enquêter sur toutes les violations des lois humanitaires internationales et des droits de l'homme dans la bande de Gaza en proie depuis plus d'un mois à une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait plus de 2000 morts côté palestinien et 67 côté israélien. La publication des conclusions de l'enquête est prévue pour mars 2015.
Le convoi russe transportant de l'aide pour l'est de l'Ukraine, contrôlé par les rebelles pro-russes, est resté bloqué hier en territoire russe au nord de la ville frontalière ukrainienne de Louhansk. On pouvait voir sur des images de la télévision des officiels russes et ukrainiens échanger des accusations et des menaces quant à la nature de la cargaison et à sa destination finale. Les officiels ukrainiens ont eux-mêmes fait des déclarations contradictoires sur l'entrée éventuelle du convoi russe dans l'est de l'Ukraine.
Et ici aux États-Unis, la police anti-émeute de Ferguson a usé de gaz lacrymogène et de bombes fumigènes contre des centaines de personnes qui protestaient pour la quatrième nuit consécutive dans cette banlieue de Saint-Louis dans le Missouri, où un adolescent noir non armé a été récemment abattu par un policier. Nous y reviendrons plus longuement dans la seconde partie de cette émission.
Voilà pour le journal. Merci Anne Albertson. On vous retrouve tout à l'heure. Washington, la voix de l'Amérique. Le virus Ebola, qui a tué plus de 1000 personnes en Afrique de l'Ouest, a également un effet dévastateur sur les animaux, notamment les gorilles des plaines occidentales en voie d'extinction. L'épidémie donne un aperçu du phénomène croissant de maladies animales transmissibles à l'homme. Nathalie Barge.
En 1996, les garçons d'un village du nord du Gabon ont ramené à la maison un chimpanzé qu'ils avaient trouvé mort dans la forêt. Les villageois l'ont dépecé pour se partager la nourriture. Une épidémie de fièvre Ebola s'en était suivie et avait tué 21 personnes selon l'OMS. Des années plus tard, lors d'une visite d'études au Gabon, l'auteur naturaliste David Kwamen a rencontré deux hommes de ce village qui avaient vécu l'épidémie. À l'époque où Ebola frappait le village, ils ont observé quelque chose d'étrange. À proximité de la forêt, ils ont vu un tas de 13 gorilles morts. Pour les gorilles, le virus Ebola a été dévastateur. Il y a eu une vague d'épidémie mortelle dans les populations de gorilles en Afrique centrale, Ebola tuant également des humains occasionnellement. L'écologiste américain Peter Walsh, qui a étudié les gorilles en Afrique dans les années 2000 lors d'épidémies, affirme que près de 95% des gorilles ont disparu. Il estime que le virus Ebola pourrait éliminer 45% de la population totale restante en une seule génération. La chasse au gibier et la maladie ont vraiment été dévastateurs pour les gorilles de l'Ouest. Pour David Kwamen, le taux de contagion des maladies animales sur l'humain semble être en augmentation. Ce n'est toutefois pas nouveau. La peste bubonique, par exemple, est passée des rongeurs à l'humain via des puces infectées, tuant plus de 60% de la population européenne au XIVe siècle. Selon Peter Walsh, la contagion de l'humain à l'animal existe aussi. Les virus respiratoires de l'homme sont la première cause de mortalité chez les chimpanzés et les gorilles vivant en contact avec les hommes. Chez les chimpanzés, la moitié des décès est causée par des virus humains. Walsh préconise la vaccination contre des maladies humaines telles que la rougeole, pour des singes qui sont en contact avec les touristes notamment.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique peut-elle stopper le tueur Ebola ? Les malades africains pourront-ils accéder aux traitements expérimentaux testés sur des patients occidentaux ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Parlant du virus Ebola, le secrétaire général de l'ONU a récemment mis en garde contre la panique et la peur, disant qu'on peut contrôler la situation. Mais peut-on contrôler les rumeurs et leurs effets sur des populations qui ont déjà peur ? Il y a par exemple le cas du Cameroun suite à des rumeurs signalant des cas venus du Nigeria où l'Organisation mondiale de la santé enregistre au moins 10 cas d'Ebola confirmés. Le ministre camerounais de la Santé a pourtant démenti, mais les nouvelles en provenance du grand voisin nigérian ne rassurent pas. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
La rumeur selon laquelle des cas d'Ebola ont été détectés dans un hôpital à Douala s'est répandue comme une traînée de poudre. Marcel Frou, un étudiant de 17 ans, dit avoir eu l'information par les médias.
J'ai écouté le journal de 20h à la télévision et on a annoncé qu'il y avait Ebola au Cameroun, dans la région du Sud. Et on a dit que c'était un virus contagieux qui sévissait en Afrique.
Le ministre camerounais de la Santé, André Mamafouda, affirme qu'il n'y a eu aucune victime de la fièvre hémorragique en provenance du Nigeria. Selon lui, le Cameroun a travaillé en synergie avec son voisin pour contenir la maladie depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état d'urgence mondial. Le Cameroun a par la suite entrepris une vaste campagne de sensibilisation. Docteur Etoundi Mbala du programme de vaccination a déclaré dans un entretien téléphonique à la VOA avoir exhorté les populations à changer certaines de leurs habitudes.
Nous avons des chimpanzés, nous avons des antilopes, nous avons des chauves-souris et il est probable que cette maladie puisse, se développer. Il faut vraiment que tous ceux qui sont en contact avec des animaux, qui manipulent les animaux, les gibiers, les chasseurs, sachent que quand on va à la forêt trouver un animal mort, il n'est pas prudent de le ramener au village pour qu'on le consomme.
L'ONU note que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest frappe des zones géographiquement plus denses où le commerce et la liberté de mouvement rend plus facile la propagation de la maladie.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Nimbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de lancer au Mali une nouvelle carte pour les réfugiés vivant dans ce pays. La cérémonie de lancement de la nouvelle carte a été présidée par le ministre malien de l'Intérieur et de la Sécurité, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Cette nouvelle carte pour les réfugiés est une carte avec photo incrustée. L'ensemble des données se trouve dans un fichier numérisé. La carte donne satisfaction aux bénéficiaires. Nkoulala Marie, réfugié au Mali.
Aujourd'hui, le Malien a accepté que le réfugié soit résidé ici au Mali. Nous sommes des Maliens par intermédiaire. Ma carte de réfugié qui va nous servir de la sécurité, de la banque, à l'école pour mes enfants, à l'hôpital pour essayer de soigner ma famille.
Le chef du département de l'Intérieur et de la Sécurité a bien apprécié cette base de données qui viendra renforcer celui du recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC. Le RAVEC ne prend en compte que l'enregistrement des nationaux. Général Sada Samake, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Nous sommes dans un processus politique qui doit nous amener à une paix définitive. Et la finalité, c'est que tous les Maliens soient là pour participer à ce que je viens de lancer à l'intérieur du pays, les élections communes à l'avenir. Donc, le fait de gérer sur des bases très claires des réfugiés participe du souci également de prendre en compte leurs préoccupations. Ils sont chez nous, ils sont considérés comme des Maliens pendant le temps qu'ils vivent chez nous, et à ce titre, ils doivent se sentir chez eux. Et avoir toute la documentation nécessaire et toute l'assistance pour leur permettre de vivre dignement.
Avec cette nouvelle méthode, 15 000 réfugiés ont pu être enregistrés au Mali. La numérisation des données des réfugiés au Mali est une nouvelle initiative du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Ce programme qui vient d'être mis en place, il est la toute première expérience en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que le HCR et le gouvernement partagent la même base de données, ce qui constitue dans un premier temps une sécurité pour le gouvernement malien, mais en même temps une facilité pour les réfugiés.
Il y aura une campagne de sensibilisation à l'intention des différentes communautés vivant au Mali pour que les réfugiés puissent avoir de la bonne information, être recensés et reconnus par les autorités du Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Ici aux États-Unis, la tension reste vive dans une banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, plusieurs jours après qu'un adolescent noir a été abattu par un policier blanc. Les leaders du mouvement des droits civiques et le président Barack Obama lui-même ont appelé au calme pendant que les autorités fédérales enquêtent sur de récents incidents entre Africains-Américains et la police. Henri Francisque.
Ferguson, une banlieue essentiellement noire de Saint-Louis, est devenue un centre de tension raciale depuis samedi, quand Michael Brown a été abattu par un policier. Selon des témoins, le jeune de 18 ans n'était pas armé. Sa mère, Leslie Max Padden, veut des réponses à ses questions.
My son didn't cause this.
Mon fils n'a pas causé ceci. Quelqu'un lui a causé ce tort. Les manifestations de colère consécutives à la mort du jeune garçon ont souvent dégénéré en actes de violence. Des magasins et bâtiments ont été pillés et brûlés. Le président Barack Obama a déploré la mort de Michael Brown et exhorté la population à honorer sa mémoire par la réflexion et la compréhension. Le pasteur Al Sharpton et d'autres leaders du mouvement des droits civiques ont de leur côté appelé à la paix.
To become violent in Michael Brown's name.
Céder à la violence au nom de Michael Brown serait le trahir. Ne soyez pas en colère au point de déformer l'image que son père et sa mère nous donnent de lui. Le chef de la police de Ferguson, Thomas Jackson, n'a toujours pas révélé le nom de l'agent qui a tué Michael Brown pour des raisons de sécurité. Ce dernier aurait reçu des menaces de mort. Il est blanc, tout comme la grande majorité des agents de police de Ferguson. Selon son patron, M. Jackson, l'enquête se poursuit sur les circonstances de la fusillade. Ces agents, a-t-il ajouté, tentaient de réduire la criminalité dans la communauté. Il y a beaucoup de crimes. Ce que nous avons fait récemment dans le complexe d'appartements, c'est de travailler avec les résidents pour réduire les crimes et aider à les résoudre. Le FBI, la police fédérale américaine, a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a eu violation des droits civiques de M. Brown. Le dernier incident impliquant le recours à la force excessive par la police contre des Africains américains. À New York, les procureurs enquêtent sur le cas d'Eric Garner, qui est mort apparemment étranglé lors de son arrestation. La méthode utilisée pour immobiliser Garner est interdite par la police de New York. Là aussi, estiment les experts juridiques, des poursuites judiciaires pourraient être engagées pour violation de droits civiques. Entre-temps, on s'attend à la poursuite des manifestations à New York et dans le Missouri pour demander que justice soit faite dans les deux cas.
Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, cette grosse nouvelle en Europe, Franck Ribéry prend sa retraite internationale.
Oui, Ribéry a fait ses adieux à l'équipe de France dans un entretien accordé au magazine allemand Quicker. À 31 ans, l'attaquant du Bayern Munich tire donc un trait sur sa carrière internationale après 81 sélections au cours desquelles il a marqué 16 buts. On se rappelle que le 6 juin, il avait quitté le camp de regroupement de l'équipe de France à Clairefontaine quelques heures après avoir dû renoncer à la Coupe du Monde au Brésil 2014, au troisième du Ballon d'Or et élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA en 2013. Ribéry était la pièce maîtresse des tricolores depuis le départ à la retraite d'un certain Zinedine Zidane en 2006.
En Allemagne, Dortmund remporte la Supercoupe.
Oui, comme en 2013, Dortmund a décroché le premier trophée de la saison en battant hier le Bayern Munich 2-0 devant son public.
La CAF réagit face à la situation de l'Ebola.
Oui, la dernière phase des éliminatoires de la CAN 2015 doit débuter le mois prochain. Et la Confédération africaine de football a décidé que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone joueraient leur rencontre des éliminatoires de la CAN 2015 sur terrain neutre. Pour le match Sierra Leone-RDC du 10 septembre, la Sierra Leone a déjà contacté la Fédération ghanéenne pour voir si ce match peut se jouer à Accra.
Football toujours, transfert.
Oui, le défenseur et capitaine belge de Manchester City, Vincent Kompany, a prolongé chez les champions d'Angleterre jusqu'en juin 2019. C'est ce qu'a annoncé le club manichéen ce mercredi. Kompany avait rejoint City en provenance de Hambourg en 2008 avant d'être nommé capitaine en 2011.
Championnat d'athlétisme.
Oui, le Britannique Mo Farah, roi du demi-fond long, a remporté l'or du 5000 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme. C'était hier soir à Zurich, forfait aux Jeux du Commonwealth à cause d'un malaise après un entraînement dévisé. Le double champion olympique 5000 et 10 000 mètres de Londres a devancé en 28 minutes 8 secondes 11 son compatriote Andy Vernon, 28 minutes 8 secondes 66, et le Turc Ali Kaya. Une fois de plus, Farah, 31 ans, a mis à profit son sprint acéré pour faire la différence, même s'il a attendu les 100 mètres.
Maintenant, on passe à la page musicale de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Le mariage de Papa Wemba a eu lieu le 9 août 2014 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On l'écoute ce matin dans « Victime de la mode ».
Bana Firenze, king de la mode. Ege, chaque fois là, match manager.
De la musique congolaise et africaine, le chanteur Papa Wemba, dont la réputation musicale a franchi tous les continents, avait annoncé il y a quelques semaines qu'il mettrait fin à sa vie de concubinage pour épouser la mère de ses enfants.
Oui, Idrissa, 44 ans après une vie commune, un mariage coutumier dans les années 70, le lead vocal de Viva la Musica a été motivé par ses 6 enfants pour accomplir l'acte. Le couple a laissé parler leur cœur et a fêté l'événement pendant 3 jours dans un cadre privé où il y avait plusieurs personnalités de marque.
Papa Wemba, victime de la mode. Merci Roger.
De rien Idrissa, un coucou ce matin à Idrissa de la radio Horizon FM à Niamey.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.